Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Neisner Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cet ouvrage de Marie-Odile Merniak appartient au domaine des guides pratiques de généalogie. Il s'intéresse à deux ensembles d'archives souvent sous-exploités par les chercheurs, le cadastre et le fonds des hypothèques. Son objectif est de montrer comment ces sources permettent de suivre la transmission familiale d'un bien immobilier, d'en comprendre les changements de propriétaire et d'en retracer les transformations sur plusieurs générations. Le livre se distingue par une approche méthodique et accessible, pensée pour aider le lecteur à passer des archives d'état civil ou notarial à des documents plus durables, qui donne une vision continue du patrimoine foncier. Il met aussi en perspective les usages du cadastre rénové et rappelle l'intérêt des plans, matrices et documents connexes pour reconstituer l'histoire d'une maison, d'un terrain ou d'un ensemble de biens. C'est donc un manuel de recherche à la fois concret et spécialisé, destiné à élargir les outils du généalogiste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le cadastre comme source pour suivre la fortune foncière d'un ancêtre. Le livre part d'une idée centrale, le cadastre ne sert pas seulement à localiser une parcelle, il permet d'identifier la composition du patrimoine foncier d'une famille. On y retrouve la nature des biens possédés, qu'il s'agisse de champs, de bois, de vignes, de maisons ou d'autres dépendances, ainsi que leurs valeurs relatives et les dates d'acquisition ou de revente. Pour le généalogiste, cette information est précieuse parce qu'elle dépasse la simple photographie ponctuelle fournie par d'autres archives. Elle aide à mesurer l'importance sociale et économique d'un ancêtre, à repérer une éventuelle concentration ou dispersion des biens et à distinguer une stabilité patrimoniale d'un appauvrissement progressif. Le livre insiste ainsi sur la capacité du cadastre à rendre lisible la dimension matérielle de la vie familiale, souvent absente des actes d'état civil. En cela, il transforme un outil administratif en instrument de lecture historique du milieu familial. Deuxièmement, le fonds des hypothèques comme prolongement documentaire du cadastre. L'un des apports les plus utiles de l'ouvrage est de montrer que le cadastre ne doit pas être consulté isolément. Le fonds des hypothèques complète la recherche en fournissant des descriptions plus précises des biens et des indications de nature juridique ou successorale. Cette articulation entre les deux ensembles documentaires permet de confirmer une propriété, d'identifier des transmissions et parfois de remonter vers des archives notariales ou judiciaires. Le livre explique aussi que, dans certains contextes de disparition des registres d'état civil, les hypothèques peuvent fournir des renseignements sur les dates et lieux de naissance, voire de décès, ainsi que sur les descendants lorsque les propriétés sont restées dans la famille. Cette fonction de relais fait du fonds des hypothèques un instrument de continuité généalogique. L'enjeu n'est donc pas seulement de décrire un bien, mais de l'utiliser comme point d'entrée vers tout un réseau d'informations familiales et patrimoniales. Troisièmement, une méthode de recherche pas à pas pour exploiter matrices, plans et indices de propriété. Le livre ne se contente pas de présenter les sources, il propose une démarche opérationnelle pour les exploiter. Le lecteur apprend à passer des plans cadastraux aux matrices, puis aux registres d'hypothèques, en suivant les indices laissés par les changements de propriétaire ou les mentions de mutation. Cette méthode progressive est essentielle, car ces archives ne sont pas toujours intuitives. Surtout pour un débutant, l'ouvrage aide à interpréter les logiques de classement, à repérer les renvois utiles et à comprendre comment une parcelle ou une maison peut être suivie dans le temps. La valeur du guide tient justement dans cette dimension pratique. Il ne réduit pas le cadastre à une carte, mais l'insère dans une chaîne documentaire cohérente. Pour le généalogiste, cette rigueur évite les contresens et permet de bâtir une enquête fondée sur des preuves. Le livre joue ainsi le rôle d'un mode d'emploi, mais aussi d'un cadre de méthode pour structurer une recherche patrimoniale. Quatrièmement, l'intérêt d'une lecture diachronique du patrimoine familial. Un des points forts du livre est d'insister sur la durée. Là où les contrats de mariage ou les inventaires, après décès, fixent une situation à un moment donné, le cadastre permet d'observer les évolutions achat, vente, héritage, remaniement de propriété, parfois revers de fortune. Cette lecture dans le temps donne accès à une histoire familiale plus dynamique, dans laquelle les biens deviennent des indicateurs de stabilité ou de rupture. Le lecteur peut ainsi relier les transformations du patrimoine à des événements familiaux ou économiques, sans pour autant surinterpréter les documents. Le livre montre que cette approche est particulièrement utile pour comprendre la transmission d'une maison ou d'un ensemble de terres sur plusieurs générations. Elle permet aussi de replacer la famille dans un contexte local plus large, en observant comment le tissu foncier se recompose. Le cadastre devient alors un outil d'histoire sociale autant qu'un instrument de généalogie. En dernier lieu, cadastre rénové, limite des sources et complémentarité avec d'autres archives. L'ouvrage aborde également les évolutions du cadastre au XXe siècle, notamment le cadastre rénové et certaines opérations de remembrement. Cet aspect est utile pour comprendre les limites de continuité entre les anciens plans et les documents plus récents. Même s'il intéresse parfois moins les généalogistes classiques, le livre signale, ainsi que la lecture des archives cadastrales, doit tenir compte des transformations administratives et agricoles qui ont pu modifier le parcellaire. Cette mise en garde est importante, car elle évite de croire à une stabilité absolue des limites et des numéros de parcelles. En parallèle, l'auteur recommande de croiser le cadastre avec les fonds cartographiques anciens et les archives notariales pour élargir l'enquête. Cette complémentarité constitue une véritable force du guide. Il ne présente pas le cadastre comme une solution autonome, mais comme une source centrale dans un réseau documentaire plus vaste. Le lecteur gagne ainsi une vision plus fiable et plus complète du patrimoine familial. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux généalogistes amateurs ou confirmés qui souhaitent dépasser la simple reconstitution des filiations pour comprendre l'histoire matérielle des familles. Il sera aussi utile à toute personne qui cherche à retracer l'histoire d'une maison, d'une terre ou d'un bien resté dans une lignée. Son intérêt principal est de rendre accessibles des sources souvent jugées techniques, en montrant concrètement comment le cadastre et le fonds des hypothèques peuvent révéler des continuités, des ruptures et des transferts de patrimoine. Comparé à d'autres guides de généalogie, il se distingue par sa forte orientation pratique, son focus sur la transmission foncière et sa capacité à relier des archives administratives à une lecture familiale de longue durée. Il ne se limite pas à expliquer ou chercher, il montre pourquoi ces documents comptent et comment ils modifient la compréhension d'une ascendance. C'est donc un outil à la fois méthodologique et interprétatif, particulièrement précieux pour qui veut articuler histoire familiale, histoire des biens et histoire locale. Si vous souhaitez soutenir Marie-Odile Mernac, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!